Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe en Argentine, sur les bords du fleuve Paraná, à 300 km au nord de Buenos Aires, dans la petite ville de Victoria. Ici, pour rejoindre la grande agglomération la plus proche, il faut traverser le fleuve en bateau ou alors le contourner et parcourir quelques 350 km en voiture. Du moins jusqu'en 2003, où un pont est construit entre les deux rives. Les investisseurs avisés font alors construire dans la paisible ville de Victoria un majestueux casino présenté comme le plus luxueux d'Amérique du Sud. Il lance une campagne de pub agressive et pour attirer les joueurs, offre des spectacles gratuits, des téléviseurs et même un char à l'association du carnaval de la ville. Très vite, plus besoin de cadeaux étincelants. L'adrénaline et les machines à sous font leur effet. Chaque semaine, sur 30 000 habitants, 16 000 personnes environ se rendent au casino, presque une sur deux et encore plus le week-end. La psychiatre de la ville estime vite que 11% de la population souffre d'addiction au jeu. Pour trouver de l'argent, raconte Courrier International, les habitants vendent bientôt leurs draps, leurs meubles, leurs vaisselles par petites annonces. Un monde piété est ouvert. Certains viennent chaque jour mettre en gage leur cuisinière, la balance de leur épicerie ou même leurs bottes de pluie. Peu de joueurs, en revanche, vont consulter la psychiatre. C'est pourtant ce que fait un jour Mario. Il a fini par voler les économies de sa mère retraitée pour jouer. Il est devenu alcoolique, il a divorcé et parfois pensé au suicide. Maintenant, il a réussi à arrêter de jouer. Il arrive à passer devant le casino sans flancher, mais à chaque fois qu'il voit quelqu'un rentrer, il ne peut s'empêcher de murmurer entre ses dents « Non, 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 n'entre pas là, ne fais pas ça, espèce d'idiot ». Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, trois autres histoires d'addiction sans substance qui ne touchent pas des villes entières, mais trois hommes, et sont racontées par Karine Lelouette.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
Antoine Douez, j'ai 23 ans et il y a quelques années j'étais addict aux jeux vidéo. Ça allait assez vite, je pense qu'en 3 mois c'était réglé, j'étais dedans et je jouais beaucoup trop. C'est le côté compétitif en fait qui est très addictif. Il y a toujours quelque chose à gagner dans League of Legends, toujours un palier à dépasser, toujours des points à récolter. Donc voilà, t'as toujours des choses à aller chercher. Petit, je jouais aux jeux vidéo, mais enfin, comme tout le monde en fait. Je baignais pas dedans, c'était pas vraiment ma culture avant que je tombe vraiment dedans. J'étais plutôt sportif, je faisais du tennis, j'ai fait 12 ans de tennis. Je faisais du foot, de la natation. Donc non, j'étais pas du tout geek. Quand j'étais au début collège en fait, ma mère est partie habiter plus loin, à Thonon. Ça a été première chose difficile et mon père est tombé gravement malade quasiment en même temps, quelques mois après. Enfin, il faisait beaucoup d'allers-retours au CHR de Lille. Avec du coup ma belle-mère et moi et on devait s'occuper de lui, c'était des grosses nouvelles responsabilités pour moi. Quand t'as un papa malade, tu dois être là pour lui, c'était moi aussi, réussir mes études pour lui, réussir tout ça, mettre beaucoup de pression, et j'avais un peu besoin de m'échapper pour fuir en fait. Un élève très feignant, donc je suis passé tout au long de ma scolarité au ras des pâquerettes. J'ai fait un bac ES, du coup je suis rentré à l'EDEC, une école de commerce. Et c'est là, avec un pote, où j'ai commencé à jouer, et de petit à petit, beaucoup trop joué. J'ai toujours joué en groupe, j'ai toujours eu mes potes qui jouaient avec moi. Eux jouaient beaucoup moins, ils avaient une relation avec le jeu vidéo beaucoup plus saine, mais moi j'abusais en fait. Je jouais, en fait, ils partaient, je continuais à jouer. Dès qu'ils se connectaient, eux, ils me voyaient moi. Alors que moi, je me connectais, je les voyais pas forcément. En moyenne, 10 heures par jour, c'est une bonne moyenne. Donc il y avait des jours à 20 heures et des jours où... Non, il n'y avait pas de jour où je jouais pas. Mais ouais, il y avait des jours où je faisais 20 heures toute la journée.
20 heures, je veux dire, tu dormais plus?
Non. En fait, c'était une période, ça allait vraiment pas. Je voulais pas penser, et quand tu te mets dans ton lit, c'est là où tu réfléchis. Et réfléchir était juste inconcevable. C'est pour ça que je continuais à jouer jusqu'à l'épuisement le plus total, pour me prendre le cerveau, pour penser à autre chose, en fait. J'étais tout simplement triste et, je pense, dépressif. Et les jeux vidéo étaient un moyen de ne pas l'être. Et si je pensais plus de 5 minutes, je pleurerais, en fait. Je me nourrissais à base de Curly et de Coca-Cola. Ce qu'il y a, c'est que je faisais le même poids qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de muscles et tout. Là, j'étais... Il y a une fille, un jour, qui m'a dit « T'es flasque ». Ouais, j'étais un sac d'huile. Mes potes, en fait, on se voyait tous les samedis soirs, vendredis soirs, dans Cambrai. Mais oh, je crois que je les saoulais tellement avec le jeu. En fait, je parlais tout le temps de ça. Et quand on parlait pas de ça, je pensais qu'à ça et ça me saoulait qu'on parle de ça. Quand t'es addict, t'as pas envie que les gens le voient. Et du coup, aller prendre des pauses, c'était un peu pour dire « Oh, je suis toujours normal ». Mais pas du tout. Quand il y avait des examens et tout, je faisais le strict minimum et j'ai passé mon année. Donc j'ai pas eu l'alarme de « T'as pas eu ton année, réveille-toi ». Les gens le savaient. Personne pouvait dire « Eh, c'est grave là maintenant ». Parce que je passais, donc voilà. Personne pouvait dire « Ah, mais là, c'est très grave, t'es en train d'abandonner tes études ». Non. Fin de troisième année, on passe nos examens. En fait, mon père n'est pas bien. Il était déjà à l'hôpital, il rentrait de temps en temps. Là, à ce moment-là, ma belle-mère était partie. Elle n'en pouvait plus. Quand elle est partie, j'allais chercher ses médicaments, je faisais les courses, je faisais à manger, je m'occupais de sa toilette, etc. Je jouais et je m'occupais de lui en même temps. Je faisais que ça. Voilà, du coup, je suis allé l'accompagner, il est tombé dans le coma. Il a dû se passer 6 jours. Le dernier contact que j'ai eu avec lui, ils l'ont sorti un peu du coma, c'était un coma artificiel. Et bah, il était intubé et tout, il pouvait juste dire oui, non. Et juste après ça, je suis revenu le lendemain et il était parti. Du coup, je suis parti à l'EDEC Nice pour fuir un peu Lille. Et là, ça a commencé à être assez terrible. En termes d'abandon de la vie, en fait. Genre, j'avais plus aucun projet, aucune ambition. Là, j'avais vraiment, je pense, pendant cette période-là, abandonné tout espoir de futur. Et du coup, je jouais. Je me mettais au fond de la classe et je jouais encore. Enfin, ouais, j'étais très seul, donc...
Et alors, à quel moment t'as eu le déclic ?
C'était sur la petite terrasse de l'EDEC à Nice. La petite terrasse, très sympa. Et je me souviens, en fait, j'ai pas décidé d'arrêter. Ouais, je me limite à 3 parties par jour. En arrêtant au bout de 3 parties, ouais, je recommençais à réfléchir, à sortir de ce monde-là et à me confronter au problème que j'avais, c'est-à-dire, là, fallait trouver un stage de fin d'études et tout. Alors, c'était une période... où je me demandais ce que les gens faisaient de leur vie, du coup. Je me disais, mais si moi je joue pas aux jeux vidéo, j'ai 10 heures où je fais absolument rien. Ils font quoi, les gens, dans la vraie vie? C'est quoi leurs activités? Et ouais, je me souviens, j'avais la chance d'avoir un chien. Du coup, je l'ai promené tout le temps. Je passais mon temps sur la promenade des Anglais avec lui.
Et tu joues plus?
Non. Au final, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. Et j'ai plus du tout cette voix qui me dit joue, joue, joue. Mais donc ça va mieux après dire sur 100 mètres où je suis. Je sais pas, mais je suis. Mais de toute façon, je suis dans la bonne direction. Donc goûter, ça n'a pas vraiment d'importance.
Sculpture, les pieds sur terre.
J'ai j'ai commencé à aller sur Internet vers la fin des années 90, au moment où on commençait à en parler. Il y avait accès au kit de connexion à l'époque qui permettait, avec les modems 56K, de se connecter à Internet. Donc j'ai découvert ça. Et puis bon, j'étais adolescent, j'avais une quinzaine d'années. Donc je suis allé vers ce genre de site par curiosité, tout simplement, en fait. Il n'y a pas d'explication concrète. J'avais pas un parcours où je me serais dit, bon, bah, j'ai par un passif, par des abus ou par des choses, quelque chose qui fait que j'ai un problème avec le sexe. Pas du tout, en fait. J'ai juste commencé à en consommer, j'ai trouvé ça bien, je me suis pas méfié, j'ai commencé à regarder un peu plus. Et il y a un moment, je me suis retrouvé à plus pouvoir m'en passer. C'était vraiment quelque chose, une pratique solitaire d'aller sur Internet le soir ou le week-end pendant les moments à la fois de liberté et de discrétion. Parce que bon, forcément, on connaît pas la sexualité, on découvre, donc c'est ça, une excitation sexuelle, accompagnée de masturbation. Au début, on regarde des choses, des couples qui ont des rapports, puis après des sexualités de groupe, puis après des pratiques plus violentes, des actes sexuels plus durs à voir, plus durs à regarder, pour continuer à retrouver cette excitation initiale. J'arrivais à, on va dire, 19 ans, oui, 19-20 ans, et j'avais déjà vu beaucoup de choses, j'avais vu sans doute déjà des milliers d'images, je les gardais pour une partie, hein, à l'époque, parce que sur le disque dur, j'avais un stock, en fait, un peu un phénomène de collection, et j'ai fini par comprendre, en fait, que quelque chose clochait, parce que déjà, sur les personnes dans la rue, les jeunes femmes dans la rue, je pouvais être assailli d'images, comme des flashbacks de choses que j'avais vues. On croise une jeune femme dans la rue qu'on trouve jolie, attirante. Un homme classique va dire « Oh, elle est jolie, elle est sexy, me plaît. » Moi, ça pouvait me renvoyer une image d'un rapport sexuel, d'une pénétration, d'une double pénétration, de quelque chose que j'avais vu. Comme une frayeur qui vous prend. Ça me submergeait d'un coup. Ça me renvoyait une image de moi qui n'était pas bonne. Enfin, ça me donnait un côté un peu un monstre, un pervers. Je n'aimais pas ce que la consommation de pornographie avait fait de moi en tant que dans mon approche de la sexualité. Alors, ma première partenaire sexuelle, donc j'avais une vingtaine d'années, oui, j'ai pas pu en fait, parce qu'en fait j'avais un phénomène de blasé lorsqu'on s'est retrouvé ensemble dans l'intimité. Elle correspondait pas à un standard, en fait, que j'avais intériorisé. Alors, je n'avais jamais vu de femme nue avant, pour de vrai, mais elle correspondait pas au standard.
Expliquez-moi.
La pilosité, elle en avait. Le film pornographie, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'imperfection, en fait. Il y a une image très stéréotypée du corps. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de panne, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. C'est des Jeux Olympiques, hein, la pornographie. Donc, j'ai vraiment pas ressenti d'excitation, ni physiquement, ni même dans ma tête, ça ne marchait pas. Il y a quelque chose qui me fait, pourquoi ces pilosités, pourquoi ces seins ont une forme, ont cette forme-là, pourquoi, voilà. On s'est embourbé, hein. C'est à partir de ce moment-là où moi j'y arrive pas, on va essayer une fois, deux fois, j'y arrive pas, il comprend pas, ça la bloque parce qu'il comprend pas pourquoi, il se sent physiquement rejeté, et voilà. Il y a des choses qui existent maintenant qui n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait pas au début des kits illimités, enfin les accès limités à Internet. Donc du coup, ça me bridait.
Et du coup, vous étiez à une consommation de combien en termes d'heures ?
8-10 heures semaine, à peu près. Zoophilie, scatophilie, urophilie, ça n'a jamais été mon truc.
C'est quoi le deuxième ?
Urophilie, l'urine. Par contre, tout ce qui était sexualité de groupe, oui, ça, j'en ai vu plein. Il y avait aussi tout ce qui était sexualité avec les machines que j'ai pu voir. Donc des équipements, des sortes de gros vibromasseurs, mais à un niveau, des choses larges, comme plus large que cette table-là, enfin des systèmes, sans forcément que ce soit les choses qui m'excitent. Moi. Mais moi, à la fin, de toute façon, il n'y avait plus rien qui m'excitait dans ce que je voyais. Et je voyais bien que j'arrivais à un palier où je ne pouvais pas passer à des paliers supérieurs. Ça a été assez facile d'arrêter la première fois, oui. J'ai arrêté, puis après, quelques années plus tard, j'ai recommencé à consommer parce que j'ai baissé la garde, quelque part. J'étais bien, puis d'un seul coup, j'y suis retourné, et puis j'ai recommencé à en consommer. Et j'étais en couple pendant presque 10 ans avec une personne. Au début, on se met en couple, je suis encore consommateur. Mais j'ai déjà conscience que quelque chose se passe mal, donc je ne vais plus rechercher des contenus très très hard. J'essaye un peu de stabiliser ce que je vois, en fait. Après, bon, j'avais trouvé mes marques, c'était pas parfait, mais ça allait.
Sexuellement ?
Oui, c'est ça, sexuellement. ça allait. Et puis bon, après, ça joue aussi, c'est en dehors de la consommation, c'est une personne avec qui j'ai construit quelque chose. Donc ça a permis d'instaurer un climat de confiance, de rassurer par rapport à différentes choses, qui a permis d'avoir de construire une sexualité, ce que j'ai pas pu avec cette première partenaire qui était que de passage. Je voyais pas que ça pouvait être interprété par l'autre si elle l'avait découvert comme une forme de problème ou de tromperie ou quelque chose comme ça. Donc moi, ça m'entretenait dans un schéma qui était pas bon, et je savais que je sentais bien qu'il fallait mieux pas que je me fasse découvrir non plus. Donc j'étais voilà, c'était un petit peu tout ça était se côtoyer un peu. Et donc j'ai réussi à arrêter. Sauf qu'entre temps, la technologie avait évolué, notamment les live shows, les connexions illimitées. Donc live show, des femmes qui s'exhibent par webcam, payent contre paiement. Là, vous passez une étape supérieure aussi. C'est que vous n'êtes plus complètement dans le passif. Vous rentrez dans une forme de consommation plus active, comme pour une procédure pour une escorte, même si là, il y avait un écran. Le manque a été dur parce qu'il a fallu. Il a fallu arrêter du jour au lendemain, il a fallu gérer ça. L'angoisse, l'irritabilité, enfin, ces choses qui font qu'on ne se sent pas bien parce qu'il nous manque quelque chose. Au début, vous êtes assailli d'images. Vous continuez à reprojeter des images, vous continuez à revoir des choses sur les gens dans la rue. C'est ça. Enfin, et c'est ça qu'il faut lutter contre. Là, je suis avec une autre personne depuis 9 mois maintenant. Donc, ça se passe très très bien. Et à l'inverse, cette personne-là, dès que j'ai senti que ça allait être un peu sérieux, je lui ai dit tout de suite, voilà. Et là, par contre, je suis complètement transparent. Mais c'est plus facile. C'est un parcours d'ancien indépendant. Donc pour moi, c'est plus simple à expliquer. Depuis que je consomme plus de pornographie et que j'ai vraiment digéré, c'est-à-dire que vraiment depuis que j'ai plus d'images, que je n'y pense plus, que vraiment ça fait partie de mon passé, ça va très très bien. Enfin, j'ai les meilleures années maintenant qu'il y a 15 ans, je pense. Clairement, parce que voilà, je suis beaucoup, enfin tout a l'air de fonctionner de manière plus simple. Je ne tenterai pas le diable hein, là-dessus, je n'y retournerai pas, parce que je suis convaincu que le mécanisme peut revenir très vite. Le cerveau, il n'oublie pas jamais complètement tout, il passe pas complètement autre chose, surtout pas sur la sexualité. C'est voilà, ça marque. Je pense pas que je sois fragile, c'est-à-dire que je vais pas détourner la rue si je vois une affiche sexy ou si une haute vidéo dans la rue, je vais pas la regarder non plus. Voilà, je fais mon chemin et ça me manque pas. En elle-même, le problème, c'est pas le consommer du porno, c'est en consommer trop. Mais la frontière entre le consommer raisonnablement et le consommer trop est fine et indéfinissable.
Je m'appelle Bruno Etienne, j'ai 49 ans. Je viens de Franche-Comté, entre Vesoul et Épinal. Donc c'est dans les contreforts des Vosges, d'une zone un peu montagneuse. Et mes parents avaient une ferme, avaient une petite ferme, une petite exploitation de montagne avec une douzaine de vaches. Je passais mon temps à travailler à la ferme. J'étais amené à ramener les vaches tous les jours. Dans le cadre scolaire, j'étais amené à faire des crosses. Enfin, d'abord des épreuves de tests, et à chaque fois je faisais des bons temps, j'avais même le record du collège, et lors de cross j'étais repéré par un entraîneur, et cet entraîneur était un ancien participant aux Jeux Olympiques, donc il m'avait repéré, il m'a demandé de s'inscrire dans son club, donc j'ai dès la première année participé au championnat de France, et puis il a commencé à m'entraîner de manière un peu plus structurée, donc non seulement je cours après les vaches, mais je courais de manière structurée en plaçant des accélérations, en faisant ce qu'on appelle du fractionné. Et ça, je l'ai fait pendant quelques années, puis après j'ai poursuivi des études, et j'ai perdu aussi mon père en 86, ce qui fait que je devais m'occuper davantage de la ferme, donc j'ai dû stopper de manière assez drastique les entraînements. Et morphologiquement, j'ai beaucoup changé, je suis passé de 1m80, 60 kg quand j'étais vraiment très en forme, à la même taille, mais cette fois 82 kg, donc j'ai pris 22 kg en quelques années. Je me sentais pas bien dans mon corps parce que ce n'était plus moi. Et parallèlement à ça, j'ai des amis qui commençaient à faire des semi-marathons ou des marathons et qui me donnaient leur temps. Et je me moquais d'eux en disant mais c'est pas terrible. Ils me disaient mais vas-y toi, tu faisais quoi? Alors je redonnais mes temps, mais ils ne voulaient pas me croire. Donc je ressortais des vieux articles de presse parus dans l'Est républicain ou les dernières nouvelles d'Alsace. Donc c'est à ce moment-là, vers 38 ans, 39 ans, que je me suis remis à courir. J'ai fait un premier marathon, j'ai fait 3h14. Et puis au deuxième marathon, j'ai fait 3h01, puis 2h56 au troisième. Et après, j'ai continué à progresser vers 2h50. Mais en m'entraînant beaucoup, donc je suis passé d'une... Je vais reprendre une citation que j'aime bien de Niels Bohr, qui était prix Nobel de physique quantique en 1922, qui dit « Ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Donc j'ai complètement quantifié mes entraînements avec la distance parcourue, le temps mis pour parcourir cette distance. Et d'une semaine sur l'autre, je mesurais vraiment l'effort. Donc je pouvais mesurer mon travail. Et là, à ce moment-là, j'ai rencontré un entraîneur qui entraînait l'équipe de France de marathon. Et là, j'ai basculé petit à petit dans une sorte d'addiction. Donc c'était mixé sur une semaine. Donc je faisais en général une séance par jour, sauf un jour de récup. Et avant les grandes compétitions, ou les compétitions que je jugeais comme importantes, je faisais deux séances. Une séance de fractionné, entre midi et deux souvent. Et puis le soir, une séance de récup, c'est-à-dire une séance d'endurance de 1h30. Donc ça faisait deux séances. Donc j'arrivais à des semaines avec 12 heures d'entraînement. Et lorsque j'étais en réunion, par exemple le matin avec mon entreprise, que je voyais que l'heure tournait, que j'allais être en retard au fractionné, ça, je commençais à m'énerver. Donc c'était, et il m'est arrivé d'abréger des réunions parce que j'avais un entraînement après, ce qui n'était pas forcément très sérieux, ayant une entreprise que le patron mette tout le monde dehors parce qu'il devait aller courir.
Dans votre famille, ça se passait comment ?
J'allais faire les entraînements tôt le matin, en partant à 6h, puis je revenais à la maison vers 7h15. Si possible en rapportant pain et croissant de manière à me faire pardonner, mais j'essayais d'éviter d'avoir trop de collisions avec la vie de la famille. Alors ceci dit, les veilles de compétition, lorsqu'on avait on était invité à des dîners qui pouvaient se terminer tard avec un peu de champagne, je me faisais porter pâle, ou il fallait que je prenais deux voitures, ma femme rentrait plus tard et moi je rentrais plus tôt parce que j'avais une course demain. Donc il y a un côté socialisant qui était non négligeable. J'ai raté parfois des vacances où la famille allait faire des excursions. Ils me disent « Pourquoi tu viens pas ?» Je dis « Parce que j'ai une séance de fractionné à faire. » Donc ça, une semaine avant le marathon, avec les enfants, je ne jouais plus au foot avec eux, enfin avec mon fils ou ses copains ou les deux, parce que je risquais de me faire une entorse au genou ou à la cheville. Donc c'était une période d'embargo ou de blackout total, pas d'autres sports. Alors sur le sommeil, j'ai fait un peu chambre à part parce que ma femme et moi n'avions pas le même rythme de travail pour pas aller réveiller le matin puis elle rentrait plus tard le soir. Donc il m'arrivait d'aller tôt au lit avant les enfants parce que ouais, ça peut être à 8h30 du soir parce que deux grosses séances dans la journée, ça fatigue quand même beaucoup. Mais qu'est-ce que c'était bien de pouvoir se coucher avec l'impression d'être du devoir, de la mission accomplie. Quand vous faites un marathon, que le premier en 3,14 et puis vous arrivez à 2,50 deux ans plus tard, vous dites « Tiens, j'ai bien progressé, bien qu'ayant vieilli. » Donc c'est un peu un défi aussi en se disant je ne vieillis pas finalement, j'arrive à faire des résultats qui s'améliorent. Enfin, c'est un peu une quête d'éternité. Enfin, c'est très, très, très pas ambitieux, mais c'est plein de vanité que de dire ça, mais c'est un moyen de se dire je tiens debout et je progresse.
À quel moment vous avez dit qu'il y avait peut-être un problème d'addiction, justement ?
C'est quand je comptabilisais, justement, c'est ce que je mesurais ce que j'avais fait. Je me dis, tiens, j'ai couru pendant 12 heures cette semaine. J'ai fait 120 km. Alors, ça fait une moyenne de 10 km, c'est pas énorme. Mais ces 12 heures, j'aurais peut-être pu les consacrer davantage à mon entreprise. Et puis, il y avait aussi le côté addictif vraiment apparu. Avec les endomorphines, c'est quelque chose qui est produit par soi-même. Donc, on produit vraiment des morphines. Et les 3 jours où si je passais 3 jours à ne pas courir parce que enrhumé, parce que déplacement, je devenais un peu agressif. Donc, non pas que je frappais les enfants, ils enfermaient dans le placard, mais je sentais vraiment un agacement, tout m'agaçait. Quand on fait un entraînement, normalement, il faut arriver détendu. C'est pas je sors du boulot et puis je vais me défouler en courant comme un malade sur une piste. C'est je sors du travail, je mets un stade de décompression où je me calme, je me change tranquillement et je vais courir. Et là, comme je voulais tout caser, à la fois l'entreprise, la famille, et ça devenait très dense, encore plus dense, je commençais à m'entraîner un peu comme un malade comme un malade, c'est un peu fort comme terme, mais en étant moins échauffé. Donc je me suis fait des équivalents claquages ou des déchirures musculaires qui m'ont obligé à stopper pendant quelques temps. Puis finalement, après, j'ai arrêté un peu les compètes parce que comme je m'entraînais moins, j'étais moins bien classé, donc l'attrait du classement est un peu chuté. Et puis, donc j'ai arrêté quand même assez longtemps. Et là, je reprends par de la marche nordique, qui permet, c'est un sport assez complet, où je retrouve des sensations. Et là, je me suis inscrit à marathon, parce qu'il ne faut quand même pas arrêter complètement. Je me suis inscrit au marathon de Berlin en septembre prochain. Mais j'ai quand même quelques objectifs pour essayer de... C'est ça qui est assez terrible, c'est que je n'arrive pas complètement à décrocher en me disant il faut que je compare quand même maintenant ce qui, par rapport à il y a 4 ans. Donc il faut être assez prudent, donc je ne force pas. Ce qui est parfois difficile. Alors ça ne veut pas dire que je vais retomber dans l'addiction. Chaille chaudée craint l'eau froide.
The words of an old blues man, they're always in time with his soul. Though his face be cracked and worn like age-old summer soil. You know he gave you his hand so you would lift him off that ground. But no one wants a hand that's rough to touch from it's been carrying around. And every man wants more than he ever did before. He's still got no way out, we've got no way out. No way out, we've got no way out of this.
Addiction sans substance, c'était un reportage de Karine Lelouette réalisé par Yaël Mandelbaum, à laquelle je souhaite particulièrement bienvenue au pied sur terre. L'attaché de production, c'est Jeanne Delecroix. Notre stagiaire, c'est Camille Richir. Merci à Antoine Douez, à Bruno Etienne, à Afreg. Merci également à Fabrice, à Olivier, à Florian et à l'administrateur du site dépendancesexuelle.com.
So hard to fit in, but he never really got a chance. Before he spoke, they burnt him, cut him, roped him, and finally put him in the ground. He said, I've been through war, and I've been through law, and I've climbed that hill so cold. Yeah, I've been through more than you'd ever know, still they never let me go. And every man wants more than he ever did before. Still got no way out, we've got no way out. No way out, we've got no way out of this. So if my eyes turn black and my teeth fall out, or my hair's caught up in rags, don't give me none of that medicine, 'cause I'll spit it right back out. Oh yeah, I will spit it right, I will spit it right, I will spit it right back out. I will spit it right, I will spit it right, I will spit it right back out.